VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 21 septembre 2015. L'actualité est encore dominée ce soir par la crise au Burkina Faso.
La tension s'accroît à Ouagadougou alors que des unités de l'armée demandent aux putschistes de déposer les armes.
Nous avons vu la colonne se diriger vers la capitale. Les chars et les véhicules conduits par les militaires.
Le projet d'accord négocié par la CEDEAO à Ouagadougou, est-ce une prime à l'impunité?
Nous pensons que la CEDEAO aurait dû prendre les mêmes positions que l'Union africaine, être ferme et vraiment ne pas donner une prime aux couches militaires.
On écoutera l'analyse du chercheur Kidoulaye Corentin.
Et Nigeria, 54 morts en 4 et 90 blessés. Le bilan des attentats de dimanche à Maïdougouri s'alourdit.
En Grèce, le Premier ministre Alexis Tsipras célèbre sa victoire aux élections anticipées de dimanche, mais déjà l'attention se porte sur les nombreux défis qui attendent le prochain gouvernement.
Crise migratoire en Europe, la Hongrie prend de nouvelles mesures pour sécuriser ses frontières.
Plein feu sur l'actualité au Burkina Faso.
La tension s'accroît à Ouagadougou alors que des unités de l'armée demandent aux putschistes de déposer les armes. Issa Napon, notre correspondant à Ouagadougou, fait le point sur les derniers développements.
Eh bien, Ouagadougou s'est réveillé ce matin comme les autres jours, depuis bientôt 5 jours, avec la gueule de bois, dans la fumée des plaisanciers et des jeunes hurlant à notre passage leur désapprobation du projet d'accord concocté hier par la CEDEAO et dans lequel il y a des points sur l'amnistie et l'inclusion, des points dont ne veulent pas entendre parler les leaders de la société civile. Et au moment où je vous parle, les rues se vident à grande vitesse. Les commerces qui avaient osé ouvrir se ferment aussi, car l'information recoupée fait état de mouvements vers Ouagadougou, des garnisons de certaines villes de l'intérieur comme à Fada et Kaya et aussi à Ouagadougou, où donc, nos correspondants nous ont confirmé donc le départ des troupes pour Ouagadougou. Alors une colonne blindée de Fada, selon une source aussi sur place, avait été accompagnée hors de la ville par un concert de plateformes de manifestants juchés sur leur moto. Si la population apprécie ce réveil des militaires du reste de l'armée, une question demeure, quelle sera réellement leur mission donc à ces régiments qui descendent sur la capitale. Et c'est ce que les insurgés justement attendent de voir. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les soldats de la garnison de Bobo Dioulasso se sont mis en branle cet après-midi en direction de Ouagadougou, la capitale du Burkina. Leur sortie de la ville a été saluée par une population en liesse. On écoute Bourema Maïga, un enseignant qui en a été témoin.
Il faut noter qu'ici à Fadam Gourma, c'était aux environs de 11h30. Nous avons constaté que les militaires étaient en préparatif pour se rendre à Ouagadougou. Vraisemblablement, on pense. Peu après, nous avons vu la colonne se diriger vers la capitale. Les chars et les véhicules conduits par les militaires. Mais si on s'en tient à ce qu'avait dit hier Macky Sall, nous pensons qu'il part pour le maintien de la paix dans la capitale.
Actuellement, moi je suis devant le camp voisin Koulibaly. C'est moi à voir les militaires qui se mobilisent du coup de gauche à droite. En plus, on voit les véhicules 4x4, les petits pick-up et les chars qui sortent. On nous a dit que là, ils s'en vont à la Sonabi pour chercher du carbone. Et maintenant, ils vont partir à Ouaga.
Ah, vraiment, c'est incroyable. Ça fait 20 ans que je réside à Bobo, je n'ai jamais vu du monde comme ça. Toute la population était sortie de la rue. On les a poussés à 2 km de la ville d'Issa en partant sur Ouagadougou. Ils sont sortis avec des chars de corps et des véhicules.
Combien de véhicules, combien de chars?
Bon, je vis au moins 7 véhicules comme ça, dont 3 chars blindés.
Et les populations étaient à quel niveau? À la sortie de la ville ou juste devant le camp militaire?
Non, c'est depuis qu'on a fait le squad, depuis le camp militaire. La foule, en tout cas, était vraiment... Au moins, c'est là. On est là, ça valait près de 5 km. À la sortie de la ville, on ne pouvait même pas voir la traversée. Vraiment, moi, j'étais dépassé. Depuis 20 ans que je suis là, je n'ai jamais vu comme ça dans la ville de Bobo.
Voilà, c'était donc Bourima Maïga de Bobo. Deux autres habitants joints par VOA Afrique à Fandangourma et Kaya. Il s'agit de Yoni Moussa et de Tao Seydou qui décrivent le mouvement du convoi militaire en direction de Ouagadougou.
La médiation de la crise consécutive au coup d'État survenu au Burkina Faso a abouti dimanche à un projet d'accord en plusieurs points. La présidence de la transition reste dans la main de Michel Kafando. Les ministres militaires quittent le gouvernement, donc exit Zida. On retient aussi l'amnistie pour les auteurs du coup d'État et la participation aux présidentielles législatives des candidats qui avaient été frappés par le code électoral. En sommet extraordinaire ce mardi, les chefs d'État de la CEDEAO vont décider d'en faire un accord définitif ou pas. Zoumana Wonogo, depuis Ouagadougou.
Juste avant de quitter Ouagadougou le samedi dernier, le président béninois Thomas Yayi Boni affirmait ceci.
Tous les acteurs de la vie politique du Burkina vont se réunir, et ceci en présence du groupe international de contact, pour lâcher la bonne nouvelle au monde entier.
Il a fallu de peu pour que cette bonne nouvelle annoncée ne le soit pas, car des pro-CND ont fait irruption le matin dans le hall de l'hôtel où se tient la médiation pour exprimer leur soutien au nouvel homme fort, le général Gilbert Diendéré. Après cet incident, les grandes lignes du projet d'accord de sortie de crise ont été données dans la soirée par le président de la CEDEAO, Cadré Désiré Ouédraogo.
La libération sans condition de toutes les personnalités détenues suite aux événements du 17 septembre 2015. 2. La restauration des institutions de la transition et du président Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition. 3. Le retrait des militaires du gouvernement. 4. La poursuite du processus électoral et l'organisation des élections présidentielles et législatives au plus tard le 22 novembre 2015. Les personnes dont les candidatures ont été invalidées sur la base des articles 135 et 166 de la loi électorale seront autorisées à participer aux prochaines élections. L'acceptation du pardon et l'adoption d'une loi d'amnistie au plus tard le 30 septembre 2015 sur les événements consécutifs au coup d'État du 17 septembre 2015.
Le médiateur en chef, le président sénégalais Macky Sall, donne ici la suite du processus assuré par le projet d'accord.
C'est ce schéma qui sera présenté le mardi à Abuja pour que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO puisse prendre les décisions qu'impose la situation, à la suite de quoi mission sera envoyée à Ouagadougou pour mise en œuvre.
Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Tuli Nabo Mushengi.
On ne peut pas continuer dans cette impasse. Nous sommes ravis de voir qu'il y a un chemin, que les gens vont commencer à discuter. Ce qu'on veut, c'est une solution gagnante.
Dans la même veine, Adama Kanazoué, candidat à la présidentielle, y voit déjà ce qui est demandé au Burkinabé.
Ce qui est demandé au Burkinabé, c'est de faire des efforts de compromis. Il reste qu'il faut bien maîtriser les contours. C'est pour cela qu'il est important pour nous d'analyser au sein du CCCP. Et ensuite, je pense que nous aviserons tout simplement. C'est notre souhait à tous, effectivement, que nous allions à la paix, dans un climat apaisé, pour que notre pays puisse amorcer enfin le développement.
Roch Marc Christian Kabori, le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, se dit surpris par ce projet d'accord. On l'écoute.
À partir du moment où nous n'avons pas eu l'opportunité ni de poser des questions, ni de donner des avis également sur ces différents points, évidemment, c'est pourquoi je marque véritablement ma surprise. Même si je comprends que le souci, c'est de dire au Burkina Faso, à sortir de la crise, il aurait été quand même indiqué que nous puissions en discuter.
Maître Benewende Sankara, lui, en a pris bonne note et se promet de l'analyser.
Nous avons pris note des différentes propositions, des différents points. Et nous allons les analyser avec nos militants. C'est un compromis.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le projet d'accord de sortie de crise annoncé par les présidents du Sénégal Macky Sall et son homologue Yahi Boni est nul et non avenu selon un des leaders de la société civile burkinabé. Marcel Toukouano, président du mouvement du 21 avril, considère que le peuple burkinabé n'est pas concerné par la proposition de la CEDEAO.
Nous ne sommes pas satisfaits de ces conclusions. C'est même pour la population burkinabé une honte pour l'Afrique que le Burkina a voulu connaître sa démocratie, que des terroristes s'emparent du pouvoir et que de telles décisions soient données à une population insurgée pour libérer tous ceux qui sont contre l'Afrique, tous ceux qui sont dans l'ancien régime de Ben Comporé. Nous ne pouvons pas accepter cette feuille de route qui a été donnée au Burkina hier. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Et à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, nous sommes déjà en lien sur toute la population est découragée, désolée, mais la population est partout, est manifeste partout. Dans la ville de Ouagadougou, dans les 6 mètres, dans les grandes voies, tout est barricadé, il n'y a pas de passage. Et cette décision que Macky Sall a proposé et Yahi Boni, nous n'en sommes pas concernés. Le peuple du Burkina Faso n'est pas concerné et nous allons tout simplement libérer notre pays comme ce que nous avons fait les 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso pour chasser Blaise Compaoré. Ces terroristes également, nous allons les chasser et ils vont aller très loin de notre pays.
Voilà, c'était donc Marcel Toukouano, président du mouvement du 21 avril, qui était donc au micro d'Éric Menirakiza.
Les propositions de la médiation de la CEDEAO menées par les présidents sénégalais Macky Sall et béninois Thomas Boni Yahi donnent une prime à l'impunité. Le problème majeur est que le projet d'accord annoncé n'a pas été discuté par tous les acteurs concernés par la crise actuelle. C'est l'opinion de certains Burkinabés. Pour l'analyse des conclusions de la médiation, VOA Afrique a joint à Ouagadougou Kidoulaye Corentin, responsable du Centre de recherche géopolitique et d'études stratégiques.
Compte tenu des réactions, évidemment, il y a à boire et à manger dedans. Hein. Il y a des propositions, évidemment, qui sont tout à fait acceptables. Par exemple, la libération sans condition des personnalités qui sont détenues, la restauration des autorités de la transition avec Kapando comme président. Ça, ce sont des propositions qui sont acceptables par tout le monde. Quoique, jusqu'à présent, on ne sait pas trop ce que devient le premier ministre et quel sera finalement le sort qui lui sera réservé, surtout qu'on dit qu'il faudrait un retrait des militaires du gouvernement. C'est que le premier ministre Zida est donc militaire, mais on sait aussi qu'il a formé un gouvernement et que ce gouvernement fait partie de la transition. Et que si le premier ministre devait partir, ça pose un problème, évidemment, en ce qui concerne le gouvernement.
Dans ce projet, on offre une amnistie aux putschistes et on demande aussi l'inclusion des leaders du CDP exclus du processus électoral.
S'il faut nécessairement une immunité pour que la situation se résolve et que la situation revienne à la normale, évidemment, c'est quelque chose qui a discuté. Dans tout ce document-là, le problème est que ça n'a pas été discuté avec les acteurs. Ça, ce sont des propositions de la CEDEAO et je me demande même d'ailleurs si c'est adopté demain à Abuja, on se demande comment ça va être mis en œuvre. Est-ce que la CEDEAO reviendra discuter avec les uns et les autres ou est-ce que ce sera quelque chose qui sera imposé au Burkina Faso comme un pays sous-titré? Le problème de l'inclusion, ça ne fait ni chaud ni froid qu'on puisse réadmettre les gens du CDP pour la course à la présidence. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y aura un problème juridique. La Cour constitutionnelle, comme tout le monde le sait, ses décisions sont non susceptibles de recours. Par ailleurs, la plupart des candidats au présidentiel qui avaient été écartés ont déclaré qu'ils acceptaient les décisions du Conseil constitutionnel.
La médiation de la CEDEAO ne fait que diviser davantage le pays.
Absolument, absolument. La médiation de la CEDEAO a posé les jalons d'une situation qui est un peu difficile. Nous pensons que la CEDEAO aurait dû prendre les mêmes positions que l'Union africaine, être ferme et vraiment ne pas donner une prime aux couches militaires.
Kidoulaye Corentin, joint à Ouagadougou par Éric Manirakiza.
Voilà pour ce spécial sur le Burkina Faso.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Guériec en votre compagnie dans le reste de l'actualité.
Au Nigeria, le bilan s'alourdit après les attentats hier à Maïdougouri. D'après la police, des dizaines de personnes ont été tuées. On compte 90 blessés au moins, alors que les témoins parlent de seulement 21 morts. Le point avec Lucie Lamon.
Les secouristes et les militaires affirment que trois explosions ont eu lieu dans les quartiers Gomari et Alijari de Maïdougouri, mais des témoins disent qu'il y en a eu quatre, dont une dans une mosquée et une autre bombe visait des civils qui regardaient un match de football. Un témoin affirme que la première bombe a fait au moins 6 victimes. Quelques minutes après, une deuxième explosion aurait fait 14 blessés, dont des enfants. Un autre engin aurait explosé dans une mosquée située dans un quartier populaire de Bintashugar. Depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, une nouvelle vague de violence s'est étendue dans le nord-est du Nigeria. Le groupe Boko Haram a changé sa stratégie et a recours à des techniques de guérilla comme des bombardements ou des attentats suicides qui touchent maintenant le nord du Cameroun et le Tchad.
Dernier développement dans l'actualité au Burkina Faso. Le chef du putsch, le général de brigade Gilbert Diendéré, revient d'une réunion avec l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et il a fait les déclarations que voici à Idriss Fall.
Nous avons discuté de la situation présente et nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix éviter au Burkina Faso de tomber dans une guerre civile. Et pour cela, nous avons réitéré nos engagements à respecter scrupuleusement les décisions qui seront prises par la CEDEAO.
Il y a une partie de l'armée qui est aux portes de Ouagadougou ou bien ?
Oui, il y a quelques unités de l'intérieur du pays qui ont commencé à faire des mouvements sur Ouagadougou. Et donc nous pensons qu'il faut éviter cette confrontation possible. Et nous avons entamé quelques discussions avec les responsables de ces unités-là pour éviter tout bain de sang inutile.
Et donc, vous êtes tombé d'accord pour faire quoi ? Vous abdiquer ou bien ?
Nous sommes en train de discuter. Nous pensons pouvoir trouver une solution heureuse.
La solution heureuse serait de remettre entièrement le pouvoir à Michel Kafando ?
Mais c'est ce que nous avions déjà. Cela était déjà prévu dans l'accord que nous avons signé. Il va être discuté demain au sommet de la CEDEAO. Et donc nous avions, depuis les sessions passées, exprimé notre volonté de respecter ces engagements-là.
Et est-ce que vous allez vous rendre, comme le demandent ceux qui font le siège de Ouagadougou ?
Nous sommes en train de parler avec eux. Nous allons voir quelle est la solution, quelle est la meilleure des solutions pour éviter le bain de sang.
Donc vous allez vous rendre armé et bagages sans résistance.
Nous allons discuter.
Oui, nous allons discuter. Le général Gilbert Diendéré, qui n'a pas voulu déclarer qu'il va se rendre, mais il souhaite ce qu'il appelle une solution heureuse et éviter un bain de sang à Ouagadougou. Il a été joint par Idriss Fall.
On enchaîne sur le reste de l'actualité. Heures préélectoraux en Guinée, à l'approche de la présidentielle du 11 octobre. Partisans du président sortant Alpha Condé et de Seydou d'Alène Diallo, le chef de l'opposition, se sont affrontés à coups de pierre et de bâton hier à Koundara, dans le nord du pays. Au moins 17 personnes ont été blessées, d'après l'AFP. Des biens publics et privés ont été saccagés, dont des boutiques appartenant à des commerçants peuls proches de l'opposition.
Une élection présidentielle se profile en République démocratique du Congo. À l'approche du scrutin de 2016, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a inauguré son compte officiel Twitter destiné à échanger sur l'avenir de son pays. Ce compte est désormais ouvert. Suivez-moi pour échanger sur mon actu et l'avenir de la RDC, indique le premier message de ce compte promettant des nouvelles bientôt de Moïse Katumbi.
Forte explosion en Somalie, près de la présidence et les bureaux du Premier ministre à Mogadiscio. La détonation serait vraisemblablement venue d'un véhicule piégé. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat et aucun tir ou signe de combat n'était signalé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Grèce, Alexis Tsipras, à la fois ancien et futur Premier ministre, il a remporté ce dimanche un audacieux pari électoral aux législatives anticipées, une victoire qui suscite beaucoup d'espoir au sein de l'Union européenne. Mais la Grèce doit faire face à de nombreux défis, dit Lidico.
L'ex-premier ministre grec réussit un tour de force en remportant ses deuxièmes législatives en 8 mois avec 35,46% des voix selon les résultats quasi définitifs. Il se débarrasse ainsi de la frange anti-austérité du parti de gauche Syriza. Fort de ce succès, il s'apprête à reconduire un gouvernement de coalition avec la droite souverainiste afin de faire face aux nombreux défis qui attendent la Grèce. La priorité du nouveau gouvernement ? Faire appliquer les mesures d'austérité et les réformes économiques attendues par les créanciers du pays, l'Union européenne et le FMI. La Commission européenne a salué la victoire du Premier ministre sortant. Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a indiqué qu'il est urgent de mettre en place le programme d'aide financier approuvé en août par les partenaires européens. Sur la question des afflux massifs de migrants en Grèce, M. Juncker a indiqué le besoin de rendre plus opérationnelle la gestion de la crise des réfugiés, qui fera l'objet du sommet des chefs d'État et de gouvernement mercredi à Bruxelles.
Le Parlement hongrois a adopté à une majorité écrasante une nouvelle législation forçant encore les pouvoirs de la police et de l'armée à l'encontre des migrants. Le texte entérine la possibilité de déployer massivement des militaires aux frontières et autorise dans certaines conditions l'usage d'armes non létales telles que balles en caoutchouc, engins pyrotechniques, grenades lacrymogènes et fusils affilés.
L'armée est également autorisée à procéder à des contrôles d'identité et à la garde à vue de migrants. Comme le rappelle l'AFP, la Hongrie a vu transiter 225 000 migrants depuis le début de l'année, qui, dans leur très grande majorité, ont poursuivi leur route vers l'ouest de l'Europe.
Le secrétaire d'État américain promet que les États-Unis vont continuer à œuvrer pour la libération de tous les otages américains au Moyen-Orient et à travers le monde, suite à la remise en liberté de 2 Américains au Yémen. M. Kerry a remercié le gouvernement du sultanat d'Oman, qui a négocié avec les rebelles chiites. 3 autres étrangers détenus au Yémen ont également été libérés.
Les États-Unis pourraient s'abstenir d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU demandant la levée de l'embargo américain contre Cuba. Citant 4 responsables de l'administration Obama, sans les nommer, l'agence Associated Press indique que le vote dépendra du libellé de la résolution. Par le passé, les États-Unis se sont toujours opposés à pareille démarche, pourtant soutenue par la grande majorité des membres de l'Assemblée. Washington et La Havane ont récemment rétabli leurs relations diplomatiques, mais seul le Congrès américain a le pouvoir de lever l'embargo.
Et le pape François poursuit sa visite pastorale à Cuba, où il est arrivé depuis samedi. 3e étape, la ville de Santiago de Cuba, le berceau de la révolution menée par Fidel Castro. Le 26 juillet 1953, Fidel et son frère Raoul avaient lancé l'attaque contre la forteresse militaire de la ville. Il s'agissait de la première action armée de la révolution cubaine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Un double attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun a fait 6 morts. Le bilan aurait été plus lourd sans l'intervention d'un élément des forces de l'ordre qui a intercepté les kamikazes au péril de sa vie à l'entrée du marché de Mora. Écoutons le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Midji Yawa Bakari, sur ce qui s'est passé dans l'attentat d'hier. Il est au micro de Moki Edwin Kinzeka.
Les kamikazes s'est précipité certainement pour aller se positionner dans les marchés pour pouvoir donc commettre leur forfait. Cet inspecteur a dû s'en apercevoir et il a pu les intercepter, mais il a dû payer de sa vie. Nous magnifions cet acte-là. Nous avons pour le moment enregistré 5 morts. Nous présentons au nom du couple présidentiel condoléances plus attestées. Je voudrais également féliciter les forces de défense et de sécurité, mais également les comités de vigilance. Ces kamikazes n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. À chaque fois, ils ont été stoppés net par les forces de défense, les comités de vigilance. N'eût été cette vigilance accrue, le bilan aurait pu être très très lourd. Aujourd'hui, cette nébuleuse est en perte de vitesse, elle est pratiquement en désarroi. Elle agit, disons, comme un pétard mouillé. Et ceci, c'est grâce à l'action conjuguée des forces des maintiens d'ordre, des forces de défense et de sécurité, mais également des comités de vigilance qui ont répondu à l'appel du chef de l'État qui a demandé à chacun, notamment au comité de vigilance, de cultiver la vigilance, notamment de dénoncer, d'informer à temps. quoique cette leçon a été retenue, et depuis un certain temps, nous constatons sur le terrain des actes positifs. Je voudrais tout simplement demander aux uns aux autres de ne pas baisser la garde, de mettre le pied sur l'accélérateur pour enfin nous puissions en découdre avec cette nébuleuse qui bat de l'aile. Je voudrais que tout simplement que chacun puisse apporter sa contribution pour le coup de grâce qui sera asséné à la tête de cette nébuleuse agonisante. Nous allons tout droit vers les fêtes de Tabaski. Il est donc urgent que nous doublions encore de vigilance, que les mesures prises soient appliquées et tout doit être mis en œuvre pour les anéantir, les mettre hors d'état de nuire.
C'était le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun au micro de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Et des centaines de milliers de demandeurs d'asile fuyant les guerres ou la misère essaient quotidiennement de rejoindre l'Europe. Pour beaucoup de migrants, l'Allemagne est la future terre promise. La chancelière Angela Merkel avait ouvert les portes, mais face à l'afflux massif, a dû revenir sur sa décision et a instauré un contrôle aux frontières. Pour une explication, Idriss Fall a joint M. Aziz Diop, un journaliste à la retraite à Cologne.
Angela Merkel est partie sur un instinct humanitaire, mais en même temps, il y a un petit rejet ou un problème qui n'est pas réglé, qui est le problème de financement des demandeurs d'asile qui vont être accueillis par les Länder, c'est-à-dire les États fédérés de l'Allemagne. Et Merkel, elle a plutôt demandé aux autres pays européens de respecter un peu l'engagement qu'ils ont eu à tous prendre, et que l'Allemagne ne se retrouve pas à accueillir 40% des demandeurs d'asile. Problème. Donc que les autres pays prennent leurs responsabilités, ce qui lui permet d'abord de faire face au rejet psychologique des Allemands eux-mêmes par rapport à ces réfugiés. Il faut le dire, hein, ce n'est pas encore accepté dans le cœur des gens. Et de l'autre côté aussi de régler le problème du financement avec les Länder, bien qu'il y ait eu la décision de Berlin de faire un apport d'un milliard d'euros pour ces Länder afin qu'ils puissent faire face à cette nouvelle vague.
Munich qui est la porte d'entrée vers le sud, Munich est arrivé à saturation.
Déjà même sans réfugiés, Munich est souvent à saturation parce que c'est le land le plus conservateur de l'Allemagne. La Bavière a été surprise par ce nouvel élan, accueillir ces immigrés qui sont surtout des immigrés venant de Syrie, d'Albanie, de Kosovo, de Serbes, etc. La Bavière étant aussi la porte d'entrée, évidemment, il fallait faire face. Mais ce n'est pas quelque chose d'acquis.
Et qu'en est-il du Nord, Berlin, qui a déjà vécu la réunification avec l'Allemagne de l'Est? Comment est-ce que les gens vivent ça?
Les gens sont récalcitrants. Déjà, le problème même de cette réunification avec l'Allemagne de l'Est, jusqu'à présent, les Allemands de l'Ouest, les Occidentaux, ont un préjugé et puis un regard assez accusateur vis-à-vis des aussi, c'est-à-dire les gens de l'Allemagne de l'Est, parce que ici, à l'Ouest, nous avons eu, par nos impôts, à financer pendant des décennies, justement, cette réunification.
Et que vous aurez à faire aussi pour accueillir 800 000 migrants.
Absolument. Écoutez, moi-même qui ne suis pas allemand, parfois j'ai eu à taper sur la table en me disant, écoute, ça suffit maintenant avec ces impôts.
Voilà, c'était Aziz Diop, un journaliste à la retraite à Cologne.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
À la mise en onde ce soir, Michel Joseph, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriac à la présentation.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wen Panga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore.
sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.